Inouï.
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 Chi è la famiglia?
Ma chi sono questi qua? Oh, Inouï! Oh, ma certo che la conosco! Oh, la conosciamo fino alla Sicilia! Oh!
Inouï.
Saison 4, épisode 1. Inouï est de retour. Mais oui, Inouï, la fameuse émission concoctée par les étudiants du CréaDoc, l'école de réalisation documentaire, sonore et cinéma d'Angoulême. On revient gonflé à bloc. Et aujourd'hui, on cause désir. Enfin, pas nous, mais elles, eux. Les voix qui s'y prêtent, s'y frottent et se dévoilent au micro de Raphaël Raffort, Élodie Bousquet, Brigitte Fontaine, Emmanuel Tornero et Jean-Louis Billy. Mais au fait, le désir, c'est quoi? Une envie de chocolat? De Caraïbes? D'amour? Et si le désir, c'était l'affirmation de soi? Écoutons voir ça, avec deux premiers documentaires, L'amour à 16 ans, puis D'après moi.
Il n'y a, bah, a pas de clous, mais bon, entre deux voitures, ça passe toujours. Du coup, là, on continue. Et au rond-point, on va prendre à gauche, et c'est pas hyper loin. Du coup, on va parler de quoi?
Du coup, on va parler d'amour.
De l'amour. L'amour.
L'amour à 16 ans. De Raphaël Raffort.
Nous y sommes.
Ah.
Et en bas, normalement, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de bruit.
Vas-y, hein, si tu veux rouler.
Ok.
Et ta copine, elle fait du skate?
Non. Non, bah, elle tient à peine debout sur le skate. J'avais déjà essayé une fois pour s'amuser, et puis du coup je la tenais, mais non, elle tient pas du tout. Et plus à regarder, mais bon, ça va, c'est pas trop son gros kiff, le skate.
En fait, c'est la première fois que tu...
Que j'ai une copine, ouais.
Que t'as une copine.
C'est ma première copine, ouais.
Ouais.
Et bah, du coup, ça se passe bien.
Ouais.
Et ça fait depuis le 15 janvier qu'on est ensemble. Parce que je l'ai mis en code pour pas l'oublier, parce que sinon elle allait m'engueuler. oui, ça se passe bien. Il y a eu des fois où on s'engueulait, tout ça, comme tout le monde, quoi. J'étais très à l'aise, en fait, dès le début. Et qu'elle, en fait, elle paraissait hyper à l'aise, mais en fait, elle n'était pas du tout. Par exemple, en fait, dès qu'elle était avec ses potes, et que j'étais là, en fait, elle changeait complètement, genre elle devenait un peu un mur, genre c'est-à-dire elle parlait plus à ses potes, elle me parlait plus à moi, et des fois, les périodes, du coup, ça faisait qu'on se voyait moins, parce que j'avais pas envie qu'on se voit pour soit se prendre la tête après ou quoi, nani nana. Mais du coup, là, ça va, parce que je sais pas, peut-être elle a un peu grandi dans sa tête, tout ça, et du coup, là, depuis la rentrée septembre et tout, bah, c'est cool.
C'est la première fois que t'es amoureux?
Oui, bah vraiment, oui, parce qu'après, sinon... Bah, les filles au collège, après je sais pas, c'est parce que j'avais un an de moins, tout ça, ou c'est que je m'en fichais un peu, ou de toute façon j'étais un peu plus gamin, donc je m'en préoccupais pas spécialement. Il y avait toujours des gens qui me plaisaient, tout ça, mais au final c'était pas spécialement le truc que je me préoccupais, etc. Donc ouais c'est ma première copine, mon premier amour. J'ai un copain, il mettait la planche et il voulait faire un gros saut et tout, mais bon, c'est un peu risqué. Moment, ce qui est rigolo, c'est qu'elle a deviné le lendemain, mais direct. Bon, je pense en fait, c'est parce que je devais sourire comme un âne, du coup, elle a dû griller. Je sais pas, mais je n'en ai même pas parlé. On était devant la télé, je me rappelle, et elle me fait « Et toi, t'as une copine ?» Mais du coup, j'ai dit oui. Et là, elle me fait mais depuis quand? Depuis hier. Et du coup, c'était rigolo parce que elle a deviné direct. Enfin, elle m'a demandé alors que c'était hyper récent. Je sais pas, moi je. Et du coup, c'était marrant.
Tu veux des enfants, toi, plus tard, ou tu
ouais.
sais pas?
Ouais, j'aimerais trop. Mais j'aimerais trop, comme papa et maman, deux enfants, un gars, une fille. Et après, je me fiche de l'ordre. Mais j'aimerais bien un gars quand même en premier. À partir de 25 ans, 26 ans, on va avoir un. le premier enfant. Après, 26 ans, c'est parce que depuis tout petit, je me dis 26 ans, je veux trop avoir un enfant et tout. Depuis que je suis tout petit. Mais oui, je sais pas, je me suis toujours dit, maman, elle en a eu à 22. Bon, 22, 23, je me dis quand même, c'est un peu tôt. À partir de 25, 26, je trouve que c'est bien parce que maman, au moins, je sais qu'elle a énormément profité de nous. Elle est super contente parce que même si elle a arrêté ses études. Qu'elle regrette pas finalement, mais c'est qu'elle a pu super profiter de nous et elle est contente parce qu'on a une super bonne relation. Je sais qu'il y a des parents avec des potes à moi, mais c'est un autre monde. Ils se parlent même pas, c'est juste pour manger. S'il n'y a pas maman ou papa ou quoi, bah, moi je sais que ça serait différent. Enfin, moi ça me ferait vraiment bizarre. Dès qu'on reste très trop ensemble et tout, on est beaucoup plus complices, tout ça c'est bien. C'est plus fusionnel.
Comment tu le vois, ce modèle des parents, toi, du couple de tes parents?
Moi, je trouve ça va, il est bien, je suis de papa et maman. Après, je trouve papa, il prend pas assez des fois de recul. Ou en fait, je pense qu'il s'énerve trop vite. Mais le problème, c'est qu'après, je pense par rapport à plein de trucs, des fois, la manière qu'il a de penser, tout ça, c'est par rapport à. Il est un peu traumatisé de ce qui s'est passé de quand il était petit, Angola, tout ça. Et maman, je trouve au moins, elle arrive assez bien à le gérer. Bon, après, des fois, ça va pas, quoi. Il y a des fois, ça va vraiment pas, il y a des fois, ça va. C'est un assez bon modèle, mais on peut faire mieux, mais je trouve qu'il est bien quand même ce modèle. Même si des fois il y a quelqu'un qui dort sur le canapé, il s'aime bien. Ça va.
Après, la figure la plus dure que je sais faire, c'est le 3-6 flip. Mais bon, je suis arrivé que deux fois, donc. Mais en ce moment, je suis pas loin. Et du coup, il faut que j'essaie encore. Je vais essayer avec un peu de chance.
Et vous êtes rencontrés comment?
Alors au début c'était en seconde, donc on s'est vus, on était dans le même cours d'espagnol, mais juste le cours c'était les classes en commun, tout ça. Et bah, du coup moi me plaisait un peu, mais on se connaissait pas, on a passé un an mais on s'était jamais parlé ou quoi, etc. C'est en première on était dans la même classe. Il y a une fois, je suis allé à un café avec des copains. Elle était venue avec une pote à elle parce qu'on était dans la même classe et voilà, elles étaient toutes seules. De toute façon, ses potes, elles savaient que je lui plaisais et tout, mais moi, je le savais pas, ouais, etc. Et du coup, ses potes m'ont filé son numéro, et puis voilà, on s'est un peu parlé, et puis après, on est sortis ensemble. C'était rigolo, parce qu'on avait passé un an en seconde à genre... Enfin, on se plaisait mutuellement, mais sans le savoir, au final. Et pour au final être ensemble, enfin, c'était rigolo, et on était contents. On est toujours contents.
Elle aussi, elle est en terminale?
Oui, mais on est dans la même classe encore. D'accord. En fait, l'an dernier, on était dans la même classe, et là encore... Du coup, en fait, on voulait pas être dans la même classe. Ouais, c'est chiant en fait. Genre, on est tout le temps ensemble. C'est pas pareil, genre, y a certaines blagues que je voudrais faire des fois, bah, je peux pas les faire parce que là, ça, pour elle, ça va être genre l'affiche ou gênant ou quoi. Je sais pas pourquoi, mais bon, bref. Enfin, c'est pas pareil en cours. Moi, je suis pas autant naturel que si j'étais qu'avec des copains. Elle est pas là, tout ça, j'ai pas à me préoccuper de ci, ça. Et du coup à chaque fois elle est là, tout le monde rigole et elle est là, non, je le connais pas lui, je le connais pas, mais c'est rigolo. Mais après c'est surtout que des fois on va se prendre la tête pour des trucs à la con, tout ça, donc des fois elle est un peu jalouse, mais je sais pas trop, des fois je suis trop avec mes potes quand elle est pas bien, non ça va en fait, bon, en ce moment on s'engueule pas trop donc ça va. Un vendredi, on était allé au parc et tout. En plus, il faisait pire que froid. Et moi, je suis hyper frileux, mais j'avais vraiment les mains. Je sentais ma circulation, elle avait ralenti. J'étais pas bien. On était sur un banc, il y avait personne dans le parc, la girl. Et puis, on s'était embrassé. Et puis voilà. Après, on avait mangé ensemble et tout. Resto chinois, c'était sympa. Et ça se sentait qu'elle était stressée. Parce qu'une n'avait rien mangé quasiment. Elle avait commandé des trucs, mais elle avait rien mangé. Et puis même, elle était tendue. Mais c'était rigolo parce qu'on arrivait en cours un peu. C'était le carnaval. Genre, là, ils ont tous sauté partout. Après, la prof a crié. Parce qu'on attendait le cours. Et là, ils faisaient tous embrasse-la.
En fait, c'était entre midi et deux.
Ouais, c'était entre midi et deux, voilà.
Et t'étais pas trop stressée?
Un peu, si. Mais bon, de toute façon, je savais qu'elle allait pas dire non. Mais c'était juste comment ça allait se passer, quoi, qui me stressait. Mais ça allait.
Et alors ça s'est passé comment? C'est toi qui lui as demandé ou enfin oui, vous en avez parlé comment?
Oui, c'est bien. Oui, on en a parler vite fait et tout. Parce que en fait, à ce moment-là, j'écrivais un peu vite fait du rap pour rigoler, juste comme ça, pour m'amuser. Et du coup, elle m'avait fait « Ah, vas-y, tu peux me faire ton rap, tout ça. » Vu que j'avais toujours mon enceinte et tout, j'avais mis l'instrumental. Et à un moment, je m'en rappelais plus. Et du coup, j'ai improvisé un petit truc rigolo sur elle, tout ça. En gros, qu'elle me plaisait, tout ça. Et je sais plus ce que j'ai dit. Et à la fin, j'ai juste dit « Bon, bref, si je te plais aussi, t'as qu'à m'embrasser. » Et puis voilà. Et du coup, on s'est pécho.
L'amour à 16 ans, de Raphaël Raffort. Remerciements à Keita Janota. Créadoc, Angoulême, le 4 novembre 2016.
Inouï, une émission.
Une émission de création
et documentaire sonore.
Par les étudiants du Créadoc d'avant.
Vraiment dans la tradition du terroir.
Et d'aujourd'hui.
D'après moi, d'Élodie Bousquet.
Pourquoi ça pose un problème que je dise que je ne veux pas être mère ?
Parce que je pense que ça fait partie de la vie. Voilà.
Il n'y a pas d'autre chose, je ne serais pas épanouie si je suis pas mère. Mmh.
Exactement. Je suis sûre que tu n'es pas faite pour ça. Et j'aimerais bien que tu t'en rendes compte.
Je ne sais pas. Et toi, tu es faite pour quoi ?
J'avais envie de voir grandir des enfants.
Voilà.
Et de partager.
Qu'est-ce que tu as à me dire ?
Et de leur donner à moi. De leur donner aux enfants. Voilà. J'avais envie de donner à mes enfants.
D'abord. Papa, tu veux pas arrêter avec la salade ? Tu penses pas que je peux vivre autrement la relation aux enfants ? Je suis obligée d'en avoir à moi.
Non. Oui. C'est pas pareil.
C'est pas
l'histoire de les avoir à soi, mais c'est pas
non,
pareil.
Mais là, tu me parles d'enfants à soi.
Moi, je me suis occupée d'enfants toute ma vie, mais ils sont pas, je les mets pas sur le même pied, mes propres enfants et des enfants dont je me suis occupée toute la vie. Même si je me suis investie à fond pour eux. C'est pas les mêmes liens qu'on a.
C'est plus ça qui te gêne, le fait de pas avoir d'amoureux. Parce que moi, je te parle d'amoureux, mais sans enfants.
Non, tu parles pas d'amoureux, tu parles d'amants.
Et alors, c'est bien les amants ?
C'est pitoyable.
Pourquoi c'est pitoyable ?
C'est pas de l'amour, ça. Je suis sûre que t'es comme les autres et que t'as besoin d'un certain attachement.
Ben, je peux être...
Tu refuses de t'attacher maintenant. C'est pas la vie, ça. Je suis désolée.
Mais si, arrête. Moi, je trouve ça
non.
Mieux.
Oui, ouais, oui, mais tu verras. À 80 berges, si tu seras contente.
C'est violent, ce que tu dis sur moi. Tu me vois plus apte au bonheur ? En fait, t'attends que ça change. T'attends que je change.
Moi, j'espère que tu... Je regrette la philosophie que t'as adoptée.
Non, mais c'est pas une philosophie. J'ai dit que je voulais pas d'enfant.
C'est ta philosophie de la vie. C'est ta philosophie de la vie. Avoir des mecs quand t'en as envie, avoir aucune contrainte à côté. Je pense que t'étais pas ça. Tu n'es pas ça. C'est pas possible. T'es pas ça.
Mais j'étais quelque chose et je suis autre chose.
Oui, mais ça... Oui, mais t'es devenu autre chose dans la négation. Alors ça...
Mais c'est pas la négation, je suis bien avec ce que je fais.
Non, c'est pas vrai. Tu peux l'être que ponctuellement. Tu peux pas l'être pour la vie, c'est pas vrai.
Et toi, t'es bien dans l'absolu ?
Tu peux pas l'être pour la vie. Élodie, dis-toi que t'as pas démarré comme moi. J'ai essayé de te donner le minimum d'atouts. Voilà, c'est tout. Peut-être trop, d'ailleurs. Peut-être trop. J'ai cru que... Donner la liberté.
C'est bien, non, regarde, la liberté, je m'en empare, mais je comprends.
Non, mais justement, j'ai l'impression que, pour moi, maintenant, tu ne l'utilises pas à bon escient, ta liberté.
Voilà. T'en penses quoi, papa ?
Bon, c'est ta vie, hein.
L'histoire que je me raconte, c'est que je ne suis pas née sans désir d'enfant. Moi, j'ai été en couple pendant 15 ans avec quelqu'un et je ne me suis pas posé la question d'avoir des enfants pendant toutes les premières années de notre relation. Et ça s'est posé autour de la trentaine, en approchant de la trentaine. Ça faisait une dizaine d'années qu'on était ensemble. On a essayé d'avoir des enfants et on n'a pas réussi. J'étais un peu acharnée à cette époque-là. J'avais un côté « Je veux un enfant !» Il faut qu'on fasse l'amour ce jour-là parce que je suis en ovulation. Ce genre de choses. Il y avait vraiment ce truc-là, un peu, hein, faire comme tout le monde, je crois. Sauf que je ne m'en rendais pas compte. Il fallait être mère, quoi. Au moment où on était vraiment le plus dans ces questionnements, on s'est séparés. Avec ou sans lui, en fait, j'avais ce désir d'enfant. C'était tellement fort en moi, en tout cas, je le vivais tellement comme ça, que je me suis dit, je veux un enfant, en fait. Ce que je faisais, c'est que quand je rencontrais des garçons, je leur disais, écoute, moi, je veux un enfant. Donc, si toi, t'en veux pas, tu te débrouilles. Moi, je me protégerai pas. Et alors, ce qui est très drôle, c'est qu'il y a quand même un garçon qui m'a dit, ok, moi, je veux bien. Ça faisait un mois que je le connaissais. Il m'a dit, on y va. Tu vois, je ne saurais pas te dire si à cette période-là, je me disais, est-ce que je veux un enfant seul, au bout du compte, qu'est-ce que c'est que ça vient raconter, quoi. Je lui avais expliqué que j'avais eu des difficultés à tomber enceinte. Il a dû se dire que ça allait prendre un peu de temps. Et en fait, je suis tombée enceinte un mois plus tard. J'étais super contente. On était allé boire un café, ou boire je sais pas quoi, dans un bar. Et il m'a exprimé avec des yeux noirs que c'était pas possible, qu'en fait, il était pas, il voulait pas. Qu'il avait changé d'avis, qu'il voulait pas avoir d'enfant. Sauf qu'en fait, il me l'a dit le jour J des 3 mois. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de ce jour-là, il a complètement muté. Et il est devenu, pas violent dans les actes, mais il est devenu violent dans les mots, violent dans les attitudes. En fait, je pense qu'il y avait quelque chose en lui qui était en train de complètement vriller. Et je suis partie travailler, j'étais à 5 mois de grossesse. J'ai eu des contractions, je suis partie en urgence à la maternité du coin. Le fœtus, en fait, il y avait les battements, tout allait bien, mais il s'est incrusté dans mon col. J'ai fait une fausse couche, quoi. Donc j'ai perdu cet être-là à 5 mois. Mais je crois qu'il y a un truc qui est arrivé à mon cerveau aussi. Moi, j'avais eu l'impression d'avoir eu un souci d'honnêteté. Je ne voulais pas faire un bébé dans le dos de qui que ce soit. Mais en fait, mon désir, là, il était tellement fort. Il était en dehors de l'autre, quoi. C'est vrai qu'il y avait de ça. Je pense que ça a été un premier chemin de prise de conscience de où j'en étais, quoi, de ce qui se passait en moi, de ce truc-là, à tout prix, toute seule. Qu'est-ce que c'est dire les choses aux gens? Qu'est-ce que c'est vouloir essayer d'être honnête si tu ne l'es pas tout à fait avec toi-même, en fait, quoi. C'est que ça ne sert à rien. Là, il y avait des méchants, j'étais la gentille victime. J'en étais encore là, quoi. J'étais victime d'une séparation violente, j'étais victime des hommes. Et c'est là que j'ai lancé des trucs pour partir à l'étranger. Et je suis partie au Québec, et ce qui est vachement intéressant, c'est que quand je suis arrivée au Québec, j'étais coupée de tout, je ne connaissais personne là-bas. Et j'ai senti un grand vide en moi, et je me suis rendu compte qu'en fait, quand j'étais vidée de toutes ces problématiques, de l'autre, du couple, de l'enfant, de mes parents, en fait, il n'y avait plus rien. Je ne m'étais jamais posé la question d'exister pour moi. Ça a été un point de départ dans une affirmation du fait que je ne voulais pas être mère, que j'avais d'autres choses à faire. Et donc là, je rentre, j'ai des amants, c'est clair, je suis contente, j'aime l'amour, je suis en train de toucher à quelque chose qui me va bien dans la relation à l'homme. Mais il y a quelque chose quand même, mon conscient, il y a des choses qui ont été réglées, mais je me mets en danger, quoi. Je me protège pas, je fais l'amour avec plein d'hommes que je connais pas très longtemps. Et puis la capote, on s'en fout, et puis de tout ce genre de choses. Un peu ambigu, en fait. Et j'ai un souci dedans, je vais voir le dentiste, il observe et analyse mes dents. Et il me dit à la fin de la séance, professionnellement parlant, je me dois de vous dire ça, c'est que les symptômes que vous avez, ça peut être un signe évocateur d'une atteinte du corps par le virus du sida. Et là, il me dit ça, et je m'effondre en larmes, et je réalise ce que je suis en train de faire, c'est que mon conscient dit « Ouais, c'est bon, les enfants, ça va. » Mais en fait, mon inconscient est encore en train de, de me jouer des tours, quoi. Il est encore en train de me raconter que si je couche avec tout le monde, peut-être que je peux tomber enceinte. Quelques temps après, là, j'ai posé clairement, j'ai dit, bon, mais maintenant, non, en fait, je ne veux pas avoir d'enfant. C'est ça qui s'est joué. Quelque chose qui a enfin décidé de m'accorder ça, quoi. Je crois que c'était la première fois. Dans mon histoire à moi, avec la personne que je suis, ben, en fait, il n'y a pas de place pour un enfant.
C'était « D'après moi » d'Élodie Bousquet. Merci à mes parents et Anne-Sophie Giraud. Angoulême, Créadoc, le 1er décembre 2017.
L'amour, 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 toujours le vieux discours. Soit divin, soit humain, idem le barata. Jusque dans les WC, j'en peux plus par pitié. Faudrait changer de disque, entreprise à haut risque. Les curés en chaleur, les idoles en pleurs. Les mémés les plus louches, n'ont que ça à la bouche. À de grâce arrêtez de vous badigeonner. De cette pub idiote, j'en ai plein la culotte. L'amour c'est du pipeau, c'est bon pour les gogos. L'amour c'est du pipeau, c'est bon pour les gogos. Barde dégoulinant, scribouillard pleurnichant, délicat militaire, épargné nouveau clair. Vénus au statue creuse, mais la donc en veilleuse. Va te faire voir chez les Grecs, les anthropopithèques. L'amour, 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 toujours le vieux discours. Soit divin, soit humain, idem le baratin. Vénus, le stade creuse, mais là donc en veilleuse. Va te faire voir chez les Grecs, les anthropopithèques. L'amour, c'est du pipeau, c'est bon pour les gogos. L'amour, c'est du pipeau, c'est bon pour les gogos.
Ah, la vache! L'amour, c'est parfois cuisant. Ça laisse un goût acide en bouche. Hein, Madame Fontaine?
Maintenant, on s'aventure en terre de fiction avec L'Amante d'Emmanuel Tornero. Et là, ça cuit tout court.
Ça mijote à feu doux. Et ça sent bon.
La chair succulente. Les corps fondent, se confondent.
Et parfois se défendent.
Là-bas. Lequel? Le mec, là, avec le t-shirt gris.
Ouais.
Si. Il est pas mal, je trouve. C'est pas mon genre.
C'est quoi ton genre?
Un grand brun. Hispanique, tu vois, avec un accent. C'est connerie, ça.
Genre lui, là-bas?
Celui qui a un bouquin sur la Renaissance?
Ouais.
Ouais, il est pas mal, lui.
T'as vu ses avant-bras?
Non, c'est pas ses avant-bras que j'aimerais voir. Pardon.
Et lui, à la table du fond?
Le blond?
Non, celui qui est juste devant.
Oh, on voit que sa nuque.
Ouais, mais t'as vu sa nuque?
Oh, ça va, pardon.
debout, là.
Tu veux pas bosser un peu?
Non, mais il y a trop de mecs, j'y arrive pas.
Ouais, mais faut rester chez toi, alors.
Je vais lui parler. Je reviens.
Mais t'es malade? Auquel?
L'amante. Une fiction radiophonique écrite et réalisée par Emmanuel Tornero.
Je sais pas si on peut dire que j'ai eu beaucoup d'amants. J'en ai eu, oui, pas mal. C'est quoi, beaucoup? Moi, j'ai pas besoin d'être amoureuse pour coucher avec quelqu'un. Mais en même temps, je me dis qu'à chaque fois que je fais l'amour, il y a un peu plus que juste du sexe. Il y a un truc qui se passe. Et c'est beau aussi. C'est de l'amour, quelque part. Même si ça dure que pendant ce moment-là. Le fait de coller toute ta peau à celle de quelqu'un d'autre. D'être juste telle que t'es, avec une autre personne, telle qu'elle est. Ça m'émeut, en fait. Même si c'est un mec que tu viens de rencontrer une heure avant, bah, c'est beau, je trouve. Ça me suffit. Du coup, c'est vrai que je suis pas du genre à faire des formalités. Souvent, je sors pour ça. Je vais à des fêtes, dans des bars, dans des cafés, parce que j'ai envie de faire l'amour ce soir-là, donc... J'y vais. Je vais trouver quelqu'un. J'ai pas eu beaucoup de copains. J'arrive pas à garder une relation, je me lasse vite. Il y a toujours un truc qui va pas. Et puis, je suis bien toute seule. J'ai pas envie. Ce que j'adore, en fait, c'est être séduite. Par un visage, une voix, une attitude. Même si le mec, il a rien fait pour. Si juste à le regarder, à entendre le son de sa voix, il me plaît, j'ai choisi. C'est lui que je veux. Alors j'y vais. Je tente ma chance.
Salut.
Tu
te connais?
Non.
T'es sûr?
Ouais, je suis sûr.
Bah, je sais pas, t'arrêtes pas de me regarder tout à l'heure. Je me demandais juste si tu t'es pas déjà vu ou pas.
Non, on se connaît pas.
C'est marrant ton regard. Enfin, marrant, c'est pas le mot. Enfin, je sais pas. On le sent, quoi.
Ça te gêne?
Hein?
Ça te gêne que je te regarde?
C'est un peu perturbant. Mais c'est agréable aussi. Pourquoi tu me regardes comme ça?
Tu me plais. En fait, quand quelqu'un me plaît, j'ai envie de le toucher. Parfois, je rencontre des personnes que j'ai envie de toucher tout de suite. C'est fou, un corps. Le corps de quelqu'un d'autre. On dit que l'esprit, c'est plus important. Que le corps, ça compte pas, mais c'est pas vrai, je trouve. On est un corps. On l'habite. Et puis ça dit plein de choses. On vit avec toute sa vie. Ça change. Ça grandit. Ça vieillit, ça marque. Ça se lie, un corps, en fait. Moi, ça me suffit. Je crois que j'ai aimé des corps, surtout. Le reste, c'était là, aussi. Mais c'était le corps avant tout. Et puis c'est unique. C'est fait pareil, ça se ressemble. Mais c'est jamais la même chose. Je crois que j'ai compris ça quand j'étais en pensionnat. On avait des douches communes. Et il y avait toutes ces filles qui se douchaient. Tous ces corps de nana, les uns à côté des autres. Et puis aucun pareil. Vraiment, aucun pareil. C'était dingue de voir ça. Moi, ça me fascinait. En fait, je sais que je pourrais jamais aimer quelqu'un si j'aime pas son corps. Mais en même temps, je crois qu'on peut aimer tous les corps quelque part. Il faut juste trouver ce qui le rend unique. Et moi, c'est ça que j'aime. C'est ce qui fait que c'est unique. Quand tu connais vraiment le corps de quelqu'un, dans tous les recoins. Quand tu te souviens des formes, des textures, des odeurs. Là, la personne, elle existe pour de vrai. On la connaît vraiment. Après, c'est du blabla, c'est faire des jolies phrases. Mais je crois qu'il n'y a pas besoin de parler pour aimer quelqu'un. Moi, j'ai pas besoin de ça, en tout cas.
Faites.
Bah rien.
Si, je vous ai vu.
Non, je ne fais rien, je suis là, je bouge pas.
Mais si, je vous vois dans la vitre. Vous aviez votre main au-dessus de ma tête, là.
C'est parce que j'ai envie de toucher vos cheveux.
Hein?
C'est parce que j'ai envie de toucher vos cheveux. Mais du coup, j'ose pas, je suis polie. Alors, j'ai juste rapproché ma main, c'est tout. J'ai rien fait de mal.
Vous êtes cinglée?
Mais non, je suis pas cinglée, vous avez de beaux cheveux. C'est pas si grave, si. Je fais rien, je vous embête pas. Mais qu'est-ce que vous regardez, vous?
Non, mais vous êtes sérieuse, là.
Mais vous êtes pas content. On vous dit que vous avez de beaux cheveux.
Le truc le plus intime, c'est l'odeur. C'est ce qui est le plus propre à une personne. T'auras beau avoir l'impression qu'au toucher, un tel te rappelle un tel, mais l'odeur, non. Ça fait toute la différence, en fait. Ça s'oublie vite, par contre. Enfin, non. On croit que ça s'oublie. C'est dur de se souvenir d'une odeur, mais... quand on sent quelque chose qui est proche d'une odeur qu'on a connue, ça revient d'un coup. Chez lui, c'est ça le premier truc qui m'a vraiment accrochée, en fait. Son odeur. C'était... je sais pas comment dire. Ça me faisait un effet, je sais pas, ça me rendait fébrile. C'était viscéral, comme si je frissonnais à l'intérieur. Quand il dormait dans mon lit, je la sentais dans les draps quand il partait le matin. C'était là, ça restait. Mais il n'y avait pas que ça. Il y avait quelque chose en plus, un truc qui me fascinait. Je ne sais pas comment expliquer ça. Avec lui, j'avais l'impression d'être un prédateur aux aguets. Vraiment, c'était bizarre. Animal. J'arrivais pas à décrocher de son corps. Je guettais le moindre de ses mouvements. Juste regarder ce corps-là, ça me plaisait, ça. Je m'en lassais pas. Ça s'épuisait pas. Quand on passait la nuit ensemble, je le regardais dormir. Juste dormir. Son corps au repos, comme ça. J'étais tranquille. Je pouvais regarder autant que je voulais. Chaque millimètre. Son visage quand il dormait. Les muscles détendus. Cet air qu'il avait sur son visage. Sa cage thoracique qui se soulevait régulièrement dans son sommeil. Les côtes qu'on devinait juste sous la peau. Les os qu'on pouvait presque toucher. Il y avait juste la peau dessus. Comme un voile. On voyait bien ses veines aussi, bleutées. C'était beau. Elle était fine, sa peau. Juste éclairée par la lumière de la rue, par la fenêtre. Dans la pénombre, comme ça. Je regardais tous ses grains de peau, sur son front, dans son cou, sur ses lèvres, dans le creux de son bras, sur son torse, ses fesses, son dos. Je trouvais ça fou qu'il soit vivant, en fait. Il avait le sommeil lourd, alors je pouvais le toucher, il sentait rien. Sur son bras gauche, il y avait une grande cicatrice. Un truc assez énorme qui allait jusqu'à l'omoplate derrière. La peau, elle était pas pareille, là. la couleur, la texture. Il n'aimait pas que je la touche. Alors j'attendais qu'il dorme. Je passais mon doigt dessus et j'imaginais que je la rouvrais, comme une fermeture éclair. Je me disais que ça devait être beau aussi dedans.
Salut.
T'as bien dormi?
Plutôt oui.
Tu veux du café?
Ouais, je veux bien. Merci. On va faire un tour après?
On pourrait retourner au lit aussi un peu avant.
On pourrait, ouais.
C'est dingue ton odeur. Dans ton cou, là. On en mangerait.
Je crois que le suçon géant que tu m'as fait me suffit pour le moment. J'ai l'impression d'avoir 14 piges.
Bon, allez, dépêche-toi. Finis ton café.
2 minutes, on a le temps. Et tu veux toujours pas me dire ton prénom, en fait?
Qu'est-ce que ça changerait? On s'en fout.
J'aimerais le connaître, c'est tout.
Bah, essaie de deviner.
Deviner?
T'as 3 chances. Après, on n'en parle plus.
Oh, putain, t'es dur. Tu m'aides un peu?
Non.
C'est un prénom français? J'y arriverai jamais.
Allez, essaie. T'auras peut-être ta chance.
Mathilde.
Non.
Sarah.
Non plus.
Elsa.
Raté.
Mais oui, forcément. C'est...
Bah, t'as eu ta chance.
Et toi, tu veux pas savoir comment je m'appelle?
Non, je m'en fiche.
Sympa.
Mais allez, c'est plus drôle comme ça. Puis allez, viens. Ses mains étaient magnifiques. On aurait dit des araignées. Hyper longues, gracieuses. Avec des articulations noueuses un peu. Puis elles étaient moites. Elles étaient douces aussi, mais la plupart du temps, elles étaient moites. Ça me dérangeait pas. Il avait une peau comme ça. Une peau qui était faite pour transpirer. Mais c'était beau, avec un grain super fin. C'était une peau d'Asie qu'il avait. Ça m'a toujours fait penser au personnage du film de Wong Kar-wai, quand il fait une chaleur à crever, et que leur peau luit comme ça. Quelque chose d'hypersensuel. Quand on faisait l'amour, il transpirait vachement. Il y avait des grosses gouttes de sueur qui perlaient de son front, et ça tombait sur mon visage. C'était impressionnant. C'était beau. C'était comme une pluie salée. Des petites gouttes de lui. J'adorais sentir ça, sa sueur, et puis son sperme, sa salive, ses fluides. J'avais faim de ça parce que c'était lui, un peu de lui en moi, vraiment. Un peu de lui qui venait vivre à l'intérieur de moi. Ça m'excitait cette idée. C'était plus que la pénétration, c'était l'absorption. Ça allait plus loin. La pénétration, c'est éphémère. En fait, c'est ça l'amour, non? Avoir envie de fusionner. De faire qu'un avec l'autre. Et lui, j'avais envie de me mélanger à lui. Pour de vrai. Il y a des moments où j'en avais plus assez juste de le toucher, de le sentir. Il me fallait plus. J'étais pas rassasiée. C'était douloureux, en fait, ce que je ressentais dans ces moments-là. C'était une frustration. Un truc violent, je le sentais dans tout mon corps. J'étais comme en manque d'un truc. Un truc que j'arrivais pas à atteindre. Je savais pas ce que c'était. J'avais jamais ressenti ça avant. Je crois qu'il s'en rendait pas compte. Il voyait bien qu'il me rendait dingue, mais... Pour lui, ça restait juste du sexe, je crois. Un truc fort, mais c'était pas pareil. On est toujours seuls. Même dans l'amour, non?
Ah! Non mais t'es malade! Putain mais t'es folle! T'as vu ce que tu m'as fait?
Je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête à ce moment-là. Ce qui a déclenché le truc. Mais j'en avais besoin. Il fallait que je le fasse. Il fallait. Je regardais son cou. Les veines de son cou toutes gonflées. Comme si elles allaient éclater. Et puis sa peau qui se tendait jusqu'à sa clavicule. Et puis il y avait l'odeur aussi. Encore plus forte quand on baisait. Je le mordais souvent. Mais là, quand j'ai serré les dents, je pouvais plus lâcher. Je contrôlais plus. J'ai senti un truc dans ma bouche. C'était chaud. Ça a duré une seconde. Juste une seconde. Après, quand il est revenu, il y a eu ce moment bizarre. Il me regardait comme si j'étais bonne à enfermer. Il comprenait pas. Et moi, je savais pas quoi dire. J'aurais voulu dire un truc, mais il n'y avait rien qui sortait. Au bout d'un moment, j'ai réussi à m'excuser. Mais c'était bizarre quand même. On sentait qu'il s'était passé un truc. On n'arrivait pas vraiment à faire comme si de rien n'était. Il est resté quand même. Je ne sais pas ce qui serait passé s'il était parti. Il s'endormit vite. Il s'endormit toujours vite. Même après ça. Je l'ai regardé dormir. J'essayais de me calmer, mais j'y arrivais pas. Je regardais son cou, là où je l'avais mordu, la marque de mes dents. J'arrivais pas à penser à autre chose. Il y avait cette envie, c'était plus fort que tout. L'envie d'avoir ce goût-là encore, son goût à lui dans ma bouche, son goût de dedans. Alors je l'ai mordu encore, plus fort. Je comprenais pas pourquoi c'était aussi bon, mais ça l'était. Il n'y avait rien de meilleur. Sa chair entre mes dents, dans ma bouche. Je sais pas, c'était lui. C'était juste parce que c'était lui. Et c'est peut-être dingue de dire ça, mais... C'était la preuve d'amour ultime, en fait. Comme ça, je pouvais le garder en moi, pour toujours. Le garder juste pour moi.
L'amante. Une fiction radiophonique d'Emmanuel Tornero avec Elodie Fiat, Nicolas Glorieux, Émilie Route, Jean-Charles Régonési et Patrice Bidot. Prise de son, Caroline Parietti, Hélène Marker, Cyprien Ponson. Créadoc, Angoulême, juin 2012.
Radio Inouï.
Radio Inouï. Inouï. Une émission
de création
documentaire sonore des étudiants du Créadoc
d'avant
et d'aujourd'hui.
Inouï.
Inouï.
Retour au documentaire, avec une dernière pièce, Nouveau conte de la foi ordinaire de Jean-Louis Billy.
Ici, le désir est un torrent souterrain qui finit par jaillir et prendre tout son lit.
Mais les braves gens n'aiment pas qu'eux en suivent une autre route qu'eux.
drague, en fait, c'est comment dire, c'est un endroit comme ça, pas officiel, où les gens viennent se réunir.
Les hétéros, ils connaissent pas ça. Hein.
Ah ouais, moi je crois que tu parlais de bar ou
ah,
de.
Non. Bah, jamais j'aurais mis les pieds dans un bar homo. Jamais. Non, quand je parle de lieu de drague, t'as tout, dans toutes les villes de France, t'as un espace. Souvent, c'est un parc, c'est des toilettes, c'est un parc public, etc., que les homos ont investi, si tu veux, mais dans la plus grande clandestinité, hein, c'est clair. C'est la nuit, c'est le soir, etc. Et voilà. Et donc, c'est des aires d'autoroute. C'est des aires de parking, etc., qui sont devenus des lieux de baise, des lieux de rencontre, etc. Très tôt dans ma vie, la question de la foi, la vie de foi du moins, a habité ma vie, ça c'est clair. Vers 16-17 ans, 18 ans, ouais, la question du sens de la vie, de ce que j'allais faire s'est posée, mais avec cette orientation très vite de devenir prêtre. Quoi. Et en ça, c'était à la fois le terreau familial, ça c'était clair, et puis le terreau des prêtres sur le coin, qui étaient des hommes bons, des hommes d'une grande chaleur humaine, d'une grande présence, d'une grande proximité, et qui ont marqué ma vie. Mais vraiment, vraiment des grands hommes, quoi. Et nécessairement, voilà, adolescent, ben, c'est des gens qui ont été référents pour moi, et je me suis dit, tiens, pourquoi pas moi, quoi. Quand j'ai terminé l'armée, je suis rentré au séminaire. C'était un séminaire un peu spécialisé, on va dire, pour que des jeunes comme moi, qui n'avaient pas fait de lycée par exemple, ou de niveau bac, puissent récupérer au moins un niveau scolaire suffisant pour pouvoir rentrer au séminaire après. Donc là-bas j'ai passé un an, un peu rude quand même, hein, 20 mecs ensemble, 24 heures sur 24, c'est quand même pas très génial, voilà. Mais bon, en même temps c'est une belle expérience intellectuelle, de découverte aussi, hein, voilà, moi j'avais jamais fait de philo, l'histoire, la théologie, la musique, voilà, tout ça, c'est un univers que je découvrais, quoi. Et puis c'est suivi après donc par 2 ans de séminaire à Poitiers, et 4 ans à Bordeaux. Découverte de l'Église, découverte des mouvements d'action catholique. Première découverte, je vais dire ça comme ça pour l'instant, de mon homosexualité. Je me suis découvert homosexuel au séminaire, avec cette identité-là, qui, très vite, mais vraiment très vite, m'est apparu comme une étrangeté, un mystère et un combat. Parce que je ne comprenais pas comment je pouvais être appelé par Dieu, qui pour moi était une évidence, vraiment de l'ordre de la foi, et me découvrir homosexuel. Pour moi, c'était incompatible. Mais incompatible parce que voilà, on était dans un contexte précis, quoi, homosexuel, sida, homosexuel par rapport à ma famille, qu'est-ce que j'allais en dire, comment leur annoncer ça, pas leur annoncer, donc un vrai combat autour de la vérité, une prise de conscience que l'Église rejetait aussi dans ses mots, etc., dans ses discours officiels, dans ses écrits officiels, etc., homosexuel égale pervers, quoi, voilà, voire pédophile, même quelquefois, l'Église a pu écrire des choses pareilles. Et ça va peut-être te paraître bizarre, pendant tout mon temps de séminaire, pendant 6, 7 ans, 10 ans, même plus au-delà, plus encore, ouais. Je priais tous les jours pour que Dieu me guérisse de l'homosexualité, pour que je ne sois pas homosexuel, quoi, en fait. Je ne voulais pas être ça. C'était pas possible pour moi. Thank you. Moi, je dis souvent que le premier homophobe, en fait, de toute cette histoire-là, entre voilà, les copains au séminaire, mes expériences sexuelles à ce moment-là, ma propre interrogation sur ce que je suis, etc. En fait, ce que beaucoup d'autres te diront certainement aussi, c'est que le premier homophobe, c'est moi. Au sortir du séminaire, cette question-là était tellement prégnante, tellement forte, j'aurais pu être ordonné, et donc j'ai pas voulu. Et donc j'ai repris le travail à ce moment-là. Ça m'a beaucoup plu aussi, voilà, de reprendre le boulot, et puis de poursuivre mon chemin de découverte et d'acceptation de ce que je suis, quoi, à ce moment-là. En 94, je me dis, voilà, j'ai 29 ans, qu'est-ce que je fais, quoi? Et là, en conscience, mais vraiment en conscience, je suis homosexuel. Là, j'arrive à le dire, si tu veux. Ça me pose moins de problèmes, oui, quand même, mais voilà, c'est plus apaisé en moi, c'est plus serein. Et je décide d'être ordonné, en me disant, ben, on verra bien. De toute façon, les copains qui sont pas homosexuels, ils sont forcément hétérosexuels, donc ils se posent les mêmes questions que moi. Hein. Voilà, être amoureux, pas amoureux, la sexualité, les fantasmes, etc. Tout le monde vit ça. Hein. Donc voilà. Et là, si tu veux, pour moi, c'est une étape importante parce que je mesure à ce moment-là aussi, non plus Dieu guérit-moi, mais Dieu m'aime même comme je suis, en fait. Et dans ma foi, dans mon regard, si tu veux, je prends conscience que si Dieu m'appelle à être prêtre, il me prend tel que je suis. Point barre. Il se pose pas de questions. Voilà, je suis homosexuel, je le sais. Et je me débrouillerai avec ça, quoi. Je me débrouille avec ça. Je suis toujours dans ce no man's land magma des lieux de drague. J'en suis pas heureux, ça m'emmerde, j'ai une frousse terrible d'être découvert. Alors là, pour moi, c'est une angoisse catastrophique. Tout le monde connaît tout le monde, le lieu de drague, tout le monde le connaît, tout le monde sait où c'est, donc je peux croiser n'importe qui quand j'y vais, quoi. Mais j'y vais quand même, parce que voilà, c'est plus fort que moi. Mais j'ai une trouille bleue, quoi. Premières années de ministère, dans un dynamisme, une fougue du trentenaire, animé de plein de bonheur, plein de joie, je fais des trucs qui me plaisent, j'accompagne des tas de groupes, à un moment donné je me retrouve tout seul sur la paroisse comme prêtre puisque mon collègue a été nommé ailleurs, une vraie confiance, une vraie joie, une vraie dynamique, enfin voilà, j'ai 30 ans, la vie est belle, quoi, c'est génial. Et puis, il y a cette question de l'homosexualité qui est là, voilà, qui m'emmerde, donc je ne sais pas trop quoi faire. Curieusement, à partir de ce moment-là, je suis plus... Comment dire ? Je fréquente plus le lieu de drague. Autant auparavant, c'était vraiment très rarement, etc. Là, c'est quasiment toutes les semaines, quoi. Et là commence à se construire ce que moi j'appelle à ce moment-là une double vie, quoi, en fait. Voilà, je drague, je baise, et je suis le curé de la paroisse, avec les groupes de jeunes, etc. à côté, quoi. Donc, commence un espèce d'écartèlement dans ma tête, et là, je me dis, putain, ça va mal, quoi. Ça va très mal. Où je vais, quoi. Je prends des risques, voilà, donc test, enfin, bon, pff, quelle vie. Quand j'y repense, je me dis, mais c'est pas possible, quoi, enfin, c'est... Je fête mes 40 ans, j'ose dire en grande pompe, et ça a été un événement super festif avec les paroissiens, 300 personnes, tous ceux que j'avais mariés, enfin voilà, plein de liens en fait. Et donc, mes 40 ans se fêtent chez un couple d'amis, un moment hyper festif dont je me souviendrai toute ma vie. Puis les 40 ans, tu verras, c'est une étape. Et là, mes 40 ans, c'est vraiment une étape, c'est le tournant là. Et le soir même, donc une grande joie, une grande émotion, beaucoup d'amitié, beaucoup de reconnaissance. Je suis un prêtre connu, je suis un prêtre aimé, très entouré, un peu adulé aussi. Et ça me gêne, ça aussi, tu vois, un peu porté au pinacle, quoi. Hein, et un peu sur un piédestal. Et ça me gêne beaucoup, ce truc-là, parce que, voilà, à côté de ça, je sais ce que je vis aussi par ailleurs, quoi. Et ça me tord, quoi. Voilà, ça m'écartèle. Donc cette journée se passe, et le soir, chez les amis, je suis un peu fatigué, dans une émotion considérable, et là, j'éclate dans une crise de pleurs, mais à ne plus finir, quoi. J'étais effondré, mais effondré. Et me venait pour moi, à ce moment-là, comme une évidence que j'étais un salaud, quoi. Un menteur, un salaud... et que je méritais pas d'avoir vécu une journée comme celle-ci, quoi. Fait que pour moi, c'était dans une contradiction totale, quoi. Vraiment une contradiction, mais terrible, quoi. À ce moment-là, j'accompagne aussi un jeune au diaconat qui est en formation dans ma paroisse, voilà. Il était à ce moment-là, lui, en stage pour te raconter l'histoire, et donc je rencontre le tuteur pour discuter un peu avec lui. Assez vite, à cette première rencontre, quelqu'un de très féminin, et très vite, je devine qu'il est homo. Donc je retrouve cette personne, on fait connaissance, on discute, etc. Et il me dit, bah, tiens, ça serait bien que tu viennes manger à la maison. Bah, je dis, écoute, pourquoi pas, voilà, donc, très bien. Donc on se retrouve chez lui un soir, et là, tous les deux assis sur le canapé, rapprochement, découverte, enchaînement, et on finit dans le lit commun. je décide de quitter la paroisse avec ce projet de prêtre-ouvrier, quoi, en fait. Voilà. Donc je construis ça. J'avais déjà pris des contacts au niveau du travail, y compris pour ici, par exemple. C'est comme ça que ça s'est fait, d'ailleurs, plusieurs mois après. Début septembre, je reviens d'un petit temps de retraite, là, avec des copains. Et le copain qui m'avait déjà remplacé à ce moment-là, donc il était convenu que je pouvais rester au ministère, dans le presbytère, pardon, tant que j'avais rien, quoi, en fait. Hein, parce que début septembre, j'avais rien, quoi, en fait. Pas de boulot, rien que dalle. Et là, le copain m'appelle la veille et il me dit « Écoute, Christian, faut que tu rentres en urgence. Il y a un gros truc qui nous est tombé sur la gueule hier. Rentre vite. » Donc j'arrive. Et le lendemain matin, on se voit dans son bureau, qui était le mien auparavant. Et il me dit « Écoute, voilà, des gens de la paroisse t'ont vu avec la personne et t'as été dénoncé. Ils ont été raconter ça aux confrères prêtres avec qui j'habitais depuis 5 ans, avec qui on était vraiment dans une grande fraternité, une grande proximité. » Et au jeune diacre qui était là. Et ils ont téléphoné à un tel, à un tel, à un tel. Donc des confrères prêtres. Tu peux pas rester au presbytère. Faut que tu partes. Alors là, c'est le monde qui s'écroule. J'ai mis tout ce que je pouvais dans ma voiture. Et je suis parti. En fuyant. De peur que... d'affronter effectivement le regard des autres... Et puis surtout la peur que la nouvelle se propage partout, quoi. Ici, là, tout près de Poitiers. Parce que je ne savais pas où aller, j'ai plus de maison, j'ai plus rien. J'avais ma bagnole, ma valise et deux caisses d'affaires, quoi. C'est tout ce que j'avais, quoi. Pendant ce temps-là, j'ai continué de chercher du boulot. Ça a duré jusqu'en début octobre, à peu près, enfin, tout le mois de septembre. J'ai fini par me planter à Cholet. Prendre un appartement à Cholet début octobre. Donc là pareil, le diocèse a accepté de payer la caution, de payer le premier mois de loyer. J'avais rien, quoi. Enfin, tu vois, de continuer de me payer aussi comme prêtre. J'avais pas d'expérience, si tu veux, de dépouillement terrible, quoi. Autant je me voyais quelquefois trop adulé, trop mis sur le piédestal, monsieur le curé ceci, monsieur le curé cela, tu vois, enfin voilà, et puis aussi ma personnalité, enfin je voyais bien, si tu veux, que je fonctionnais bien avec les gens, donc j'étais apprécié, aimé, reconnu, etc. Donc tout ça, c'était, voilà, j'avais vraiment un sentiment de reconnaissance sociale très très important, si tu veux, sans orgueil, hein, je dis ça, tu vois, c'est, voilà, mais il y avait ça, quoi, quand même, tu vois, et voilà, ça me faisait vivre aussi, quelque part, hein, et du jour au lendemain, plus rien, plus rien, plus rien, plus rien. Je m'appelle Christian, j'ai 51 ans, j'habite Poitiers où je travaille depuis une dizaine d'années dans une association.
Du coup, j'aimerais bien que tu présentes ton parcours, en fait, qui m'amène à te voir, en fait, à te rencontrer.
D'accord. Alors, le parcours, ça peut être long, hein. Il y en a pour 2 heures, là. Ça va aller ? D'accord, ok.
Nouveau conte de la foi ordinaire, de Jean-Louis Billy. Merci à Christian Michaud d'avoir accepté de témoigner. Merci au Master 1 et Master 2 du CréaDoc pour tout leur avis et conseils. CréaDoc, Angoulême, le 10 juin 2016.
Pour aujourd'hui. On se retrouve au prochain épisode. D'ici là, soignez bien vos désirs et vos oreilles. On vous embrasse.